Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine.
Si.
C'est-à-dire ?
Juste devant la grille, s'il te plaît.
Bah, c'est nouveau, ça.
Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comment elle est stylée, notre voiture ?
Eh, comme ta mère.
Démarquez-vous avec style. Grâce à la Toyota EcoCross, à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Toyota.
Toyota EcoCross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande entre les 3 et 18 janvier. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer ?
h 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Manhattan, 28e rue, près de Madison Square, dans une très belle maison, cossue, riche famille, les Roosevelt. Nous sommes en 1870 et dans une des jolies chambres de cette belle maison. Un petit garçon, en tout cas un jeune garçon, allongé dans son lit, qui a des douleurs abdominales terribles. Il est asthmatique, ce jeune Théodore. Et c'est grâce à cette santé fragile qu'il n'a rien d'autre à faire que de lire et d'étudier encore, ce qui va faire de lui un adolescent cultivé, féru de sciences naturelles. Il est aussi désireux de vaincre sa fragilité, ce qui fait qu'il va se mettre à la gymnastique, et puis l'appétit vient en mangeant, si je puis dire. Alors, il s'initie à la boxe et au judo, et son père l'encourage. Son père, c'est un philanthrope, Monsieur Roosevelt, qui lui transmet des valeurs d'empathie, de bienveillance, de générosité, comme on peut les cultiver dans cette haute société américaine de la fin du 19e siècle. « Veille aux principes moraux en premier, lui dit son père, à ta santé en second, puis seulement ensuite aux études. » Théodore étudie le droit à Columbia. Il va se lancer dans la politique. « J'avais bien l'intention de faire partie de la classe gouvernante, dit-il. » Il se fait élire député de l'État de New York. Il est républicain, mais un républicain progressiste, comme le sont d'ailleurs beaucoup des républicains de cette époque-là. N'oubliez pas la lutte contre l'esclavage. On est dans les lendemains de la Grande Guerre de Sécession, bien entendu. Bref, notre Théodore rêve d'en découdre avec la corruption, le clientélisme qui, selon lui, mine la classe politique américaine, avec aussi la fraude fiscale. À 26 ans, c'est le drame. Sa jeune épouse va mourir d'une maladie rénale juste après la naissance de leur fille. Il est complètement dévasté, Théodore. Il démissionne d'ailleurs, il se retire dans le Dakota, sur des terres sauvages qu'on appelle les Badlands, où il avait fait construire un ranch, et il décide de se couper du monde. Maintenant, il va devenir un ranchman, il va s'occuper d'élevage. Il va essayer aussi de chasser ses idées noires en menant une véritable vie de cow-boy. Il est adjoint du shérif. Seulement, à l'hiver 86, il y a un froid terrible qui est venu du Grand Nord et qui va décimer son élevage. Il est obligé de fermer le ranch. Décidément, la vie n'est pas facile. Theodore Roosevelt rentre à New York. Et d'une certaine manière, toutes ces épreuves et cette espèce d'ascèse l'ont transformé. Il va faire un nouveau mariage avec Edith, qui est cultivée. Ah, c'est une femme étonnante, Edith Roosevelt, avec la tête sur les épaules. Ils vont avoir 4 garçons, et le voilà qui se relance dans la politique en soutenant le candidat républicain au présidentiel de 88, Harrison. Harrison est élu, ce qui veut dire qu'il va pouvoir confier au jeune Roosevelt, je dis au jeune Roosevelt, il a 30 ans à l'époque, Theodore Roosevelt, hein, et il lui confie la réforme de la fonction publique. Et vous imaginez comment ce cow-boy revenu aux affaires à New York va se jeter à Washington à corps perdu dans la mission qu'on lui confie. Il mène tout ça avec énergie, comme un taureau dans un magasin de porcelaine, dit la presse. Il devient ensuite le chef de la police de New York, chef à poigne, est-ce que j'ai besoin de vous dire, puis secrétaire d'État adjoint à la marine. Le voilà bien installé dans les cercles du pouvoir.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
À la tête de la marine, Theodore Roosevelt a pleinement adhéré à la doctrine expansionniste des États-Unis qui était en vogue à la fin de ce 19e siècle. Il dit « Je verrai d'un bon œil n'importe quelle guerre car je pense que c'est ce dont le pays a besoin ». Il y a un certain nombre d'hommes d'État américains qui en ont pensé, qui ont pensé la même chose. Il fait donc bâtir une flotte de cuirassés. Il soutient l'idée d'une guerre contre l'Espagne dans les Philippines et à Cuba. Vous savez, cette guerre américano-espagnole pour chasser les Espagnols du Pacifique et des Caraïbes. En février 98, dans le port de la Havane, un cuirassé américain explose. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un attentat? Toujours est-il que la presse américaine accuse l'Espagne, elle pousse au feu, et en avril 98, le Congrès déclare donc la guerre à l'Espagne. Et le nouveau président, qui est William McKinley à l'époque, va envoyer des troupes à Cuba, aux Philippines. Selon André Caspi, c'est l'acte de naissance de l'impérialisme américain. C'est l'acte de naissance de ce que nous connaissons depuis tout ce temps. Roosevelt est un va-t-en-guerre. Il démissionne du ministère et part combattre à Cuba. Il prend la tête carrément d'une compagnie de dragons et la presse va surnommer la compagnie les Roosevelt Rough Riders. Ça vous donne une idée. Les cavaliers sauvages de Roosevelt. Dans les collines de San Juan à Cuba, le colonel Roosevelt lance une charge audacieuse et malgré les pertes, il remporte la bataille. Dans les Philippines, les États-Unis réduisent la flotte espagnole à néant. Vous savez que ça va être une victoire incroyable pour les États-Unis d'Amérique. Theodore Roosevelt est le héros de cette victoire et après l'image du cow-boy, c'est celle du combattant qu'il a réussi à forger, d'où l'irrésistible ascension politique qui désormais est la sienne. Il est élu gouverneur de l'État de New York, donc le plus peuplé du pays bien sûr. Il veut taxer les entreprises qui gagnent de l'argent grâce à l'État. Alors on dit mais c'est un socialiste, ça ne l'arrête pas. À la convention républicaine de juin 1900, il manœuvre pour figurer sur le ticket présidentiel aux côtés du sortant McKinley. La campagne est menée tambour battant, nous dit George Ayache dans Les Roosevelt, une dynastie américaine qui vient de paraître chez Perrin. Quand il dit que c'est mené tambour battant, 673 discours dans 567 villes, vous imaginez, voilà, McKinley réélu et Roosevelt vice-président. Oh, il ne va pas rester très longtemps au second plan. Le 6 septembre 1901, à Buffalo, on est toujours dans l'État de New York, McKinley visite l'exposition panaméricaine. Un homme surgit, revolver au poing. C'est un anarchiste, il tire. Et c'est l'assassinat de McKinley, bien sûr, qui meurt une semaine plus tard. Et pour le remplacer, Theodore Roosevelt va prêter serment le 14 septembre 1901 à Buffalo. « Je désirais devenir président, mais pas de cette manière-là », dira-t-il. Il a 42 ans, il est le plus jeune président, il est taillé pour la fonction et par nature et par conviction, il est réformateur, vous l'aurez compris, il veut une présidence de combat et très vite, il annonce qu'il a l'intention d'interpréter le rôle du président de manière extensive. Il a bien l'intention d'exercer pleinement tous les pouvoirs, à l'exception de ceux qui lui sont expressément refusés par la Constitution, c'est-à-dire pas tellement finalement. C'est un peu l'inverse d'un président effacé derrière le Congrès. Lui aussi va défendre l'État fédéral contre les États de l'Union, je dis lui aussi comme d'autres présidents républicains avant lui, projet qui est à contre-courant néanmoins de la ligne du parti à ce moment-là. Le très allègre deuxième mouvement de la suite américaine de Dvorak, le Royal Philharmonic Orchestra était sous la direction d'Antal Dorati.
Vous écoutez Radio Classique.
Hyperactif, le président Theodore Roosevelt, omniprésent, il est là, toujours à l'initiative, qui surprend son monde. Il est le premier président à prendre l'avion. On lui parle d'un sous-marin, il embarque dans le sous-marin. Il fait installer le téléphone sur le bureau présidentiel, qui n'est pas encore le bureau ovale à l'époque, je précise. Il a compris depuis la guerre de Cuba comment on utilise la presse et il fait tout ce qu'il peut faire pour passionner les journalistes, qu'il fait d'ailleurs poireauter pendant des heures à l'extérieur de la Maison Blanche quand il donne des conférences de presse. Enfin, il sait faire. En octobre 1901, il va recevoir à dîner à la Maison Blanche un noir américain. Vous imaginez ça? Booker T. Washington, un ancien esclave, militant de la cause afro-américaine. La ségrégation est encore en cours dans 13 États du Sud à l'époque quand même. Et d'ailleurs, le sénateur de Caroline du Sud s'étrangle quand il apprend ça, il s'appelle Tillman. L'action du président Roosevelt en faveur de ces nègres nous obligera à en tuer un bon millier dans le Sud avant qu'ils apprennent de nouveau où est leur place, dit-il. Vous voyez un peu le genre. La presse sudiste titre sur l'outrage condamnable du président et l'on commence à caricaturer Roosevelt avec un visage noir. Roosevelt répond « Je le réinviterai, je veux pouvoir me regarder en face ». Acte symbolique, mais dans les faits, il n'entreprend rien pour lutter contre la ségrégation. En revanche, il va nommer pour la première fois un ministre de confession juive, Oscar Strauss. Sur le plan économique, vous aurez compris que Théodore est du genre interventionniste. Il pense qu'il faut réglementer le capitalisme dont la nature est d'être débridé. Il crée un ministère du commerce et du travail avec un bureau des grandes firmes, ce qui va ulcérer toute la droite du parti. Il s'attaque immédiatement au trust, à la concentration. Il veut une application impitoyable de la loi antitrust, la fameuse loi Sherman de 1890. Il va déclencher en tout 84 poursuites. Et dans son collimateur, on l'a raconté, l'Astin d'Arloyle de Rockefeller. Rappelez-vous cette histoire incroyable. Mais aussi la Northern Securities Company, également détentrice de monopoles ferroviaires très importants. Mai 1902, une grande grève de mineurs éclate en Pennsylvanie. Les mineurs, à l'époque, travaillent 16 heures par jour. Et certains n'ont pas plus de 10 ans, vous imaginez? Des gamins qu'on envoie dans ces mines. Ils n'ont pas eu d'augmentation depuis 2 décennies. Les syndicats sont interdits. Face aux grévistes, les opérateurs miniers ne cèdent pas. On ne s'en relèvera pas, disent-ils. Et la pénurie guette le pays. Alors le président agit. Il va menacer J.P. Morgan, vous savez, le représentant du patronat, de faire intervenir la troupe. Il arrache une augmentation de salaire, une baisse du temps de travail, et dans son discours sur l'état de l'Union, il explique « Nous faisons simplement en sorte que les grandes sociétés servent le bien public. Nous traçons une frontière entre les comportements inappropriés, non contre la richesse. » Theodore Roosevelt va gagner en popularité avec tout ça. Vous imaginez ce que peut être sa popularité? Il se présente aux élections de 1904 et l'emporte avec 56% des voix, 2/3 des grands électeurs face aux démocrates Parker. Désormais, je ne suis plus un accident politique, dit-il. Ben oui, parce qu'il avait quand même succédé à McKinley dans les conditions que vous savez. Il va poursuivre son programme, lutte contre la corruption, fixation du tarif des transports. Il crée la Food and Drug Administration pour lutter, pour contrôler l'alimentation. Il faut dire que les scandales sanitaires à l'époque sont réguliers. Il va également créer l'United States Forest Service et lancer des programmes de conservation de la nature en faveur des réserves d'eau, etc. En politique étrangère, il est toujours aussi expansionniste. 1902, la Colombie avait réclamé son droit à gérer le futur canal qui va traverser une de ses régions, l'isthme de Panama, bien sûr. Réponse de Roosevelt, retourne en arrière, petit homme, et cesse de me déranger. Ça vous donne une idée. En 1905, il se lance dans une grande tournée diplomatique pour asseoir la puissance américaine, la croisière impériale, comme l'appelle la presse. 1907, il envoie une flotte de 16 bâtiments militaires paradés dans tout le Pacifique. Le but, c'est d'intimider le Japon. Et en 1908, il lance la construction d'un grand port militaire à Hawaï. Ce sera Pearl Harbor, bien entendu. C'est la politique du gros bâton, du big stick, selon sa propre expression. Un bâton qui, pour l'instant, est plus menaçant que douloureux. Roosevelt se vantera qu'aucun coup de feu américain n'ait été donné à l'étranger tout au long de sa présidence. Il est en train de préparer, en revanche, d'autres présidences, vous l'aurez compris. 1908, c'est la fin donc du second mandat. Il aurait le droit de se représenter puisqu'il n'a pas été élu la première fois. Seulement, il refuse. Il a l'intention de respecter l'esprit de la Constitution. Il estime que 2 mandats, c'est assez. Et il préfère partir au sommet de sa gloire. Ça, c'est pas fréquent. Il va désigner aux électeurs son successeur, qui n'a pas le même charisme que lui et qui est beaucoup plus conservateur. C'est William Taft qui va être élu. Et pour tourner la page, Theodore Roosevelt part en voyage. Il s'embarque à New York sous les ovations de la foule. Mais que va-t-il faire ? Eh bien, il va chasser le fauve en Afrique. Il y a l'un de ses ennemis, c'est le fameux Morgan, qui dit « Espérons que les lions feront leur travail ». Cette fois, c'est le quatuor américain de Dvorak, interprété par le quatuor Juilliard.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Il va quand même tuer plus de 500 animaux en Afrique. Je sais que nous vivons à une époque où ce genre d'exploit n'est plus très bon à mettre en avant. Mais quand il rentre, il n'en est que plus acclamé par les Américains qui ne l'ont pas oublié et ne peut s'empêcher de critiquer la politique de Taft qu'il juge trop conservatrice. Il est totalement inapte à diriger et c'est un moment où nous avons besoin de dirigeants, écrit-il. Ce pays appartient au peuple, ses ressources, ses affaires, ses lois, ses institutions doivent être utilisées de la manière la plus favorable à l'intérêt général. Et il propose un impôt sur le revenu et un autre sur les successions et la protection de l'environnement et une nouvelle loi antitrust. Bref, un programme dont on doit pouvoir dire qu'il est à gauche et dont le parti ne veut pas. Roosevelt va perdre les primaires contre Taft et il va créer son propre parti progressiste. Il se présente donc grâce à cela. En octobre 1910, il prononce un discours à Milwaukee dans le Wisconsin. Un homme surgit de la foule, braque une arme et tire. Theodore Roosevelt est atteint à la poitrine, seulement la balle a été déviée par l'étui à lunettes qu'il portait sur lui, ce qui fait que le poumon n'est pas perforé. Roosevelt poursuit son discours. « Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous comprenez bien que je viens de me faire tirer dessus, mais il en faudrait davantage pour tuer un élan mâle, dit-il. » Et il se laisse seulement, après avoir fini son discours, transporté à l'hôpital. Il sera battu quand même, mais il fait battre Taft avec lui et c'est le démocrate Woodrow Wilson, le grand président de la Première Guerre mondiale, hein, qui va entrer à la Maison Blanche. Roosevelt repart en voyage, expédition dans la forêt amazonienne cette fois, à la recherche des sources d'un fleuve, du Rio de Duvida. Il rentrera épuisé, il est blessé à la jambe et là, cette fois, il est atteint de la malaria.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et c'est la guerre en 14 et Roosevelt et pour l'intervention des États-Unis aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. Il fulmine de voir Wilson jouer les attentistes. Quand les États-Unis enfin entreront en guerre en 17, l'enragé Wilson voudra prendre la tête d'une compagnie de volontaires pour aller combattre en France. Refus de Wilson, qui ne veut pas du tout le voir sur un champ de bataille. En revanche, Theodore Roosevelt aura la fierté de voir ses quatre fils devancer l'appel. Trois reviendront blessés mais vivants. Mais le plus jeune, Quentin, à 19 ans, mourra aux commandes de son avion le 14 juillet 18. Cela ne s'invente pas. Après le décès de son fils, Théodore est envahi d'une espèce de tristesse dont il n'arrive plus à guérir. Il est comme brisé, il ne veut plus se présenter aux primaires, alors qu'inutile de vous dire, on déroule devant lui le tapis rouge. Tout ça ne l'intéresse plus, il n'a plus de goût, il est fatigué. Il s'éteint le 6 janvier 19 dans son sommeil d'un arrêt cardiaque à 60 ans. « Le vieux lion est mort », annonce son entourage. Son ancien vice-président, Marshall, lui rend hommage avec humour. La mort l'a surpris dans son sommeil, car si Roosevelt avait été éveillé, évidemment, la lutte aurait été plus farouche, dit-il. L'Amérique est en deuil. Theodore Roosevelt lui a légué deux ambitions, un idéal de justice, mais aussi un désir de puissance. Ce visage de Roosevelt apparaîtra aux côtés de Washington, de Jefferson, de Lincoln, sur le mont Rushmore. On le sculptera là-bas en 1927.
Vous écoutez Radio Classique.
Et après le grand Théodore, le grand Christian. Bonjour Christian Morin.
Quelle comparaison,
n'est-ce pas?
Bonjour mon cher Franck. Theodore Roosevelt, on va pas s'éloigner du territoire américain, puisque à 14h, vous allez nous parler de la véritable parcelle de Maurice, illustre dessinateur de Lucky Luke et des Dalton, mais la véritable histoire des Dalton.
Oui, parce qu'ils sont inspirés de vrais personnages, ces figures célèbres de la bande dessinée.
Ça s'est mal terminé quand même, si l'on peut dire. 14h, Franck Ferrand, et bien sûr, demain matin, on se retrouve avec bonheur. Bonne journée.